Bruxelles, Le Figaro, LCI, première partie. Invité aujourd'hui, Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement et candidate à la mairie de Paris. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. En seconde partie d'émission, premier grand débat dans cette campagne des municipales à Paris, vous débattrez avec le candidat vert David Béliard. À mes côtés pour vous interroger, tout d'abord, dans cette première partie, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Puis bonjour. Comme d'habitude, question nette avec Marie-Pierre Haddad qui nous rejoindra en fin de première partie pour relayer toutes vos interrogations, vos interpellations à Rachida Dati pour la campagne des municipales, mais également pour tous les dossiers nationaux que nous allons aborder. Alors Rachida Dati, vous ne lâchez jamais rien, vous avez décidé de laisser derrière vous le Parlement européen où vous étiez députée pour briguer la mairie de Paris sous l'étiquette des Républicains. Et ce, même si une partie de votre camp vous soutient à reculons, voire ne souhaite pas vraiment votre victoire. Mais dans les sondages, vous avez plutôt le vent en poupe, car dans celui du JDD d'aujourd'hui, vous faites même un bond, seconde, derrière Anne Hidalgo et devant Benjamin Griveaux, le candidat macroniste. Allez-vous lui tendre une perche aujourd'hui? Nous verrons bien. Et puis en quatrième position, on retrouve le vert David Béliard, avec qui donc vous débattrez dans la seconde partie de cette émission. Mais d'abord, nous revenons sur l'actualité nationale et le climat de tension de ces dernières heures. La première question vous est posée par Alexis Brézé.
Oui, climat tension, parce que alors que la grève contre les retraites donne le sentiment de se terminer, le climat, lui, social, donne le sentiment de se tendre. Il y a eu le président de la République qui assistait à une pièce de théâtre et qui a été prise à partie. Il y a eu le restaurant La Rotonde, où il avait ses habitudes, qui a été incendié. Il y a eu le siège de la CFDT qui a été envahi. Est-ce que toutes ces actions de violence, est-ce que tout ça vous inquiète?
Ces actions de violence, évidemment, elles sont inquiétantes. Moi, j'ai toujours condamné toutes les formes de violence. Qu'on fasse grève, c'est un droit constitutionnel. C'est dans le cadre du débat démocratique. Moi, je trouve ça tout à fait légitime de pouvoir faire grève ou de contester des mesures qu'on considère soit qu'on n'a pas comprises, soit qui ne sont pas fondées ou qui peuvent remettre en cause certains acquis. Donc, là-dessus, on n'a pas de discussion. Moi, ce que je constate, et ça date pas d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques semaines, le pays, et on l'avait dit, et la droite, d'ailleurs, s'était fortement mobilisée, d'ailleurs, déjà sous le mandat de François Hollande, le pays se fracture de plus en plus. Les actions de violence sont de plus en plus violente et de plus en plus radicale. Juste une chose.
Mais la cause, c'est quoi? Marine Le Pen dit que le gouvernement, l'exécutif contribue à cette violence. Vous diriez quoi?
Moi, je pense que on n'a pas vu le pays se fracturer. Vous savez, la manifestation des Gilets jaunes, nous, on n'a pas, en tout cas, j'en fais partie, on n'a pas été surpris de voir des gens qui souffraient en silence depuis des années, qu'on a méprisé, qu'on n'a pas considéré. Des gens qui travaillent. On a vu dans la lumière des gens qui travaillent et qui ne peuvent plus joindre les deux bouts. Et donc, cette fracture, elle est ancienne. Elle est ancienne.
Moi, je pense d'avant Emmanuel Macron.
Oui,
président très clivant.
Mais moi, je pense que d'abord, même si nous, on en avait tiré un peu les conséquences à l'élection de 2007, c'est un constat. On a eu.
La même nature que ce qui se passait à l'époque. Vous avez eu des oppositions, avez eu des contestations quand vous étiez membre du gouvernement.
Oui, mais on a eu des contestations, soit catégorielles, soit sur une mesure. Pas une contestation sociale de souffrance profonde. C'est-à-dire que les gens qui souffrent, ils ne peuvent plus vivre. Ce n'est pas une contestation de dire on a fait une mesure où j'ai fermé un tribunal, il y a une contestation, où on fait une mesure de loi qui peut. C'est plus profond que ça. C'est une souffrance et une désespérance. Moi, je reprends les propos de Gérard Collomb quand il quitte le ministère de l'Intérieur. Il a dit « Attention, attention, les Français ne vivent plus côte à côte, ils vivent face à face. » Et là, nous sommes dans des oppositions. Moi, je le vois, vous savez, Paris a toujours été, même sur le plan électoral, on a toujours été préservé de la radicalité, des extrêmes. Aujourd'hui, Paris est concerné.
Mais est-ce qu'il y a un responsable à ça, Rachida Dati?
Paris est concerné.
Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui emporte la responsabilité? Paris, subit une évolution avec laquelle il ne peut rien?
La méthode du gouvernement a aggravé ces fractures. Elle a aggravé ces inégalités. Et quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas dire c'est pas grave, ça manifeste, on envoie de la répression, on attend que ça se calme et on attend le prochain événement. Non, il y a quelque chose de fond. Et cette violence, c'est l'expression aussi, ça démontre qu'on a un vrai problème dans le débat démocratique. Mais là, pour le coup, nous sommes tous concernés. Tous les partis, toutes les familles politiques, tous les corps intermédiaires, le gouvernement, on est tous interpellés et concernés par cette violence.
Alexis Brézé.
Vous parliez de maintien de l'ordre. Emmanuel Macron parlait de comportement pas acceptable de la part de la police. Il a appelé à des mesures pour améliorer la déontologie. Vous reconnaissez dans ce discours?
Moi, ce que je n'ai pas, ce que je n'accepte pas, c'est l'expression violence policière. Moi, violence et policière, ça ne va pas avec dans un état de droit et un état républicain. Il peut y avoir des dérives individuelles, mais je n'accepte pas qu'on puisse généraliser vis-à-vis des policiers ce type d'expression. C'est devenu finalement presque une expression courante. Les policiers, nous avons une police républicaine. Il peut y avoir des dérives individuelles. C'est le corps le plus contrôlé. Il y a des sanctions. Et dans un pays fragilisé et fracturé, au lieu de les fragiliser ou les mettre en cause, nous devrions les soutenir.
Donc là, vous pensez que Emmanuel Macron,
non,
Christophe
je ne dis pas ça.
Trop,
non,
on les ont mis finalement
non,
trop
je
en
pense,
cause.
Non, je pense que il y a un petit mouvement, il y a quelque chose où on a le sentiment, en 2015, on était bien content de les avoir. Pour faire face à toutes les menaces. On a différentes formes de menaces. Ils sont là pour notre sécurité du quotidien. Si on peut aller et venir librement, c'est qu'ils sont là.
Mais est-ce qu'il faut travailler sur leur déontologie ? Est-ce qu'il y a des choses
ils ont une déontologie.
Oui,
ils ont une déontologie.
Le président de la République a réclamé des propositions à Christophe Castaner pour améliorer leur déontologie.
Moi, je vais vous dire, ils ont une déontologie. Il y a des dérives sans doute individuelles. Il y a des sanctions qui sont prononcées. Parfois même des sanctions avant même une condamnation ou une poursuite judiciaire.
Et parfois, il y en a pas, par exemple, dans l'affaire de ce livreur qui a été très vivement interpellé.
C'est arrivé effectivement dans mon arrondissement.
Il n'y a pas de suspension.
Oui, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas suspendre quelqu'un sur la foi d'une vidéo qui n'est pas forcément... On ne sait pas d'où ça peut venir et par quel biais. Qu'on puisse... Effectivement, moi, je trouve que c'est important qu'on puisse voir aussi des images. Parce que ça permet aussi. C'est pour ça que quand on avait voulu mettre des caméras,
la cause du décès est établie sur sur ce plaquage ventral dont on dit qu'elle est la cause.
Ah, parce que vous êtes devenu médecin et vous êtes devenu expert du plaquage ventral.
C'est ce qui implique qu'il y a eu aussi la famille a été reçue.
Oui, mais la famille a été très digne
à cause de cette.
Oui, mais la famille
a été utilisée.
La famille a été très digne. Elle ne réclame.
Elle a regretté que les policiers ne soient pas mis à pied.
Elle a pu s'interroger, mais c'est normal. Ils ont perdu leur fils. Enfin, c'est ce qu'il y a de pire qui peut arriver dans une famille, quand même. Ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur père, ils ont perdu leur frère. C'est la douleur, moi, vous savez, il faut pardonner, même si les propos avaient, s'il y a eu des propos un peu déplacés, quand vous êtes dans cette douleur, on peut tout comprendre.
Mais ils ont été très dignes. Quand vous comprenez bien, vous dites que globalement, on a tendance à en faire un peu trop dans la critique de la police. Le sens global de votre discours.
Vous avez vu l'état du pays depuis 2 ans? Parce que vous avez vu l'état du pays, fracturé, des violences, des manifestations sans cesse, des provocations aussi parfois. On continue, on attaque, on tape la police? Non. Quand il y a dérive, il y a poursuite, il y a contrôle, il y a sanction. Ça ne veut pas dire que j'excuse. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à ce jeune livreur ou à d'autres, je n'excuse pas. Je dis effectivement, il faut qu'il y ait des sanctions.
Est-ce qu'elles sont bien encadrées, Rachida Dati, ces forces de l'ordre? Est-ce que Christophe Castaner fait bien le travail qu'il faut faire auprès d'elles?
Non, mais moi, c'est pas. Vous savez, c'est un travail très difficile. On a été au ministère de l'Intérieur. Hein. Puis nous, on a vécu les violences urbaines de 2005. Rappelez-vous, et on avait même eu, à un moment donné, est-ce qu'il ne fallait pas faire un état d'urgence presque? Donc on a été confrontés à cela. C'est un ministère très difficile. Les policiers font un travail très difficile. Moi, je peux avoir un avis de citoyenne. Je suis responsable politique. Je ne vais pas accabler ceux qui assurent notre sécurité et qui assurent, dans leur grande majorité, dans le respect de la déontologie et de l'état de droit. Mais qu'il y ait peut-être... Moi, je sais, je ne suis pas experte de cela. Est-ce qu'on doit revoir notre doctrine de maintien de l'ordre? Mais dans tous les pays démocratiques, notre police et notre doctrine de maintien de l'ordre, c'est un modèle. Il faut quand même le rappeler.
Rachida Dati, quand même, vous nous dites depuis le début, certes, que le pays est divisé, mais vous semblez dire aussi que Emmanuel Macron a hérité d'une situation, alors qu'on entend votre camp tirer à boulet rouge systématiquement sur le président de la République en disant qu'il est le seul responsable de cette situation.
C'est ce que dit Christian Jacob, notamment. Soyez un petit peu de nuance. Généralement, moi, parfois, il m'arrive aussi de ne pas nuancer. Mais vous êtes journaliste, nuancez un peu. Ma famille politique dit effectivement qu'il a parfois hérité d'une situation, parfois il a pu l'aggraver ou parfois il a pu la créer. Donc il y a différentes situations.
En quoi il l'a aggravé alors?
En ne voyant pas ce qui se passe dans ce pays, il y a des inégalités qui s'aggravent. Il y a un désespoir. Et parfois on me dit, oui, c'est minoritaire, c'est 30 personnes qui ont essayé de rentrer dans un théâtre. Puis c'est 10 personnes qui ont mis le feu à la rotonde. Mais c'est dans le symbole, dans l'expression, dans ce que ça traduit, c'est extrêmement grave, il faut l'entendre. Moi je pense que chacun, à notre place, y compris pour nous, l'opposition, on doit aussi apporter des solutions et apaiser aussi le climat.
Alors, en toile de fond derrière tout ça, il y a la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous diriez du point d'arrivée tel qu'il est aujourd'hui, de cette réforme des retraites? Est-ce que vous dites, finalement, le gouvernement a sauvé l'essentiel, il y a le régime à points universel, ou bien vous dites, on a lâché l'âge pivot et donc l'équilibre financier?
Alors moi, je n'ai pas bien vu le point de départ et je ne vois pas bien le point d'arrivée. Donc, si vous, est-ce que vous pouvez me dire le point de départ, puis vous me dites le point d'arrivée, puis on fait une petite analyse. Point de départ, c'était pas très lisible, sinon ça n'aurait pas généré autant de mobilisation. Point d'arrivée, il est encore plus illisible.
Le point d'arrivée, ça, on va laisser les partenaires sociaux discuter. Est-ce que c'est une bonne chose? Sur la conférence de financement,
on leur fait confiance. Sur tout, vous discutez sur quoi? Sur quel tram? Sur quel projet? Sur quel texte? Voilà, dites-le-moi. Bah,
sur le c'est projet du gouvernement.
Alors, oui, mais moi, non, mais précisément.
Alors, c'est ce que vous avez sur la table. Vous pouvez
alors, qu'est-ce qu'il y a sur la table?
Un projet universel de retraite à part point. Est-ce que vous êtes contre ce projet?
Nous, on est effectivement favorable à une convergence des systèmes de retraite, qu'on puisse
pour la fin des régimes spéciaux.
Oui, mais on a commencé. À chaque fois, il faut arrêter de aussi s'autoflageller. On n'a pas fait de réforme. La droite n'a jamais fait de réforme.
Qu'est-ce qui vous empêche d'être contre ce projet? Ça comprend pas. Si la droite arrive au pouvoir,
mais moi, je comprends même pas ce que vous me dites.
Est-ce qu'elle l'abroge ou est-ce qu'elle garde ce projet?
Mais quel projet? De quel projet parlez-vous?
Le projet d'une réforme de retraite à point.
Alors, je vous dis, on ne souhaite pas que le système par répartition soit remis en cause. Premier point. On souhaite la convergence des régimes de retraite. Deuxième point. On souhaite effectivement que les régimes spéciaux aient vocation effectivement à disparaître.
Comme le gouvernement.
Oui. On est d'accord. Alors ensuite, nous, sur le financement, on ne souhaite pas la baisse des pensions. C'est un point important. Et on ne souhaite pas une augmentation des taxes ou des cotisations.
Comme le gouvernement.
D'accord, mais nous, la solution, c'est une mesure d'âge.
Donc vous voulez en plus une mesure d'âge?
Non, mais en plus de quoi?
Vous voulez cette retraite à points et 65 ans ou vous dites pas besoin de ce système-là et on met 65 ans?
Non, parce que le gouvernement dit régime universel, disparition des régimes spéciaux. Ah mince, c'est pas financé. Puis d'autres vont peut-être gagner moins à la retraite que quand ils travaillent. Donc ils se disent, mince, on n'a peut-être pas fait le travail dans le bon sens.
Vous dites qu'il ne fallait pas retirer l'âge pivot?
Non mais le travail n'était ni fait ni à faire. Là, je pense qu'ils vont... Parce que vous n'avez pas vu l'action des ministres. Là, ils reçoivent toutes les catégories. On commence la négociation. Et puis, vous avez vu, sur la conférence de financement, on va enfin s'interroger sur le financement. Et puis, autre chose, vous avez vu que pour financer... C'est-à-dire qu'on bouche les trous avec les systèmes qui marchent bien.
Ce que vous semblez dire, Chadia Tati, on ne vous comprend pas très bien, c'est que
cette réforme-là,
elle n'est pas si mauvaise que ça, puisque tous les points principaux, vous semblez retrouver le gouvernement, mais qu'il faut une mesure d'âge. En plus, c'est-à-dire 65 ans.
Non, mais les principes, on peut être d'accord sur les principes. Après, dans les faits, aujourd'hui, dans les faits, le texte, ce que je vous dis dans les principes n'est pas traduit dans le texte qui a été envoyé au Conseil d'État.
Dans les catégories qui se mobilisent, il y a les avocats en particulier. Ils ont raison de s'opposer à cette réforme?
Les pauvres, non seulement ils ont un système de retraite équilibré, c'est bien géré, ils ont quand même un système excédentaire, et le gouvernement dit, mince, on n'a pas pensé au financement, il nous manque de l'argent. Et si on prenait chez eux? Mais déjà,
vous étiez pour la convergence, j'étais dit il y a un instant, donc là, on va converger.
Là, on ne réforme pas le système de retraite des avocats. On leur dit, donnez-nous votre argent. Donc déjà, pour les autres, on dit, vous pouvez nous donner de l'argent, vous êtes riches. Donc déjà, on crée une tension entre catégories. Puis nous, on a bien géré...
On va créer de solidarité entre les différentes caisses.
Non, mais on leur dit, on va vous doubler le taux de cotisation. Enfin, c'est ça, on vous double le taux de cotisation, on passe de 14 à 28. Puis surtout, donnez-nous vos économies. Je vais vous dire, c'est typique. Vous savez ce que fait la mairie de Paris? Moi, je suis président de la Caisse des écoles à la mairie du 7e. Quand je suis arrivée, j'ai fait un audit, j'ai mieux géré. Ma Caisse des écoles est très bien gérée. Qu'est-ce qu'elle fait la mairie de Paris? Elle m'a retiré la subvention qui pouvait compléter en disant, puisque vous gérez bien, on va donner à ceux qui gèrent mal. Voilà la méthode de gestion. En essayant de ponctionner ceux qui gèrent bien, c'est ça.
Dites quand même sur la grève, Rachida Dati, puisqu'elle affecte quand même tout le réseau de transport ferroviaire.
Elle affecte beaucoup les Parisiens.
Est-ce que vous vous félicitez de ce que vient de dire l'UNSA, c'est-à-dire que la grève a cessé, mais qu'elle semble devoir reprendre vendredi? En tous les cas, l'UNSA dit on se prépare à la reprendre vendredi, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Est-ce que pour vous, vous leur dites voilà, il faut savoir arrêter une grève. Est-ce qu'il faut cesser la grève?
Moi, je ne veux pas dire à des syndicalistes ou à des salariés, on vous interdit le droit de grève.
Vous interdit, mais pouvez vous donner votre avis en tant que...
Mon avis, c'est d'abord que les grèves, si la grève est légitime, qu'ils fassent grève. Mais vous savez, les premières victimes, moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ceux... Moi, j'en ai vu des salariés qui se levaient à 3h ou 4h du matin pour ne pas perdre les 30 euros qu'ils allaient gagner par jour. Voilà, ça c'est une réalité. J'ai du respect pour ces gens-là. Oui, mais moi ce que je dis, c'est que d'abord la ville de Paris aurait pu anticiper. On peut mettre des mesures. Moi, je l'ai fait à mon petit niveau avec peu de moyens. Déjà, sur le service minimum dans les écoles, dans les crèches, sur la mobilité intramuros en Paris, on aurait pu voir si on pouvait, évidemment, avoir un service de circulation, mettre des cars à disposition pour faire traverser Paris. On a abandonné les Parisiens.
Ça a été mis en place par le gouvernement, mais ça n'a pas fonctionné.
Parce que la ville n'a pas été partenaire à cela.
Il y a une divergence de vue.
Moi, je vous dis, il y a une divergence de vue.
Le service service minimum de transport mis en place par Nicolas Sarkozy n'était pas suffisamment contraignant pour permettre de mettre en place un service.
C'était pas suffisant contraignant, vous avez raison, mais vous pouvez l'anticiper. Le service minimum, c'est pas de dire la veille, hop, on va aller tout le monde, tout. Non, ça marche pas comme ça. On l'anticipe quand on dirige une collectivité.
Donc
quand
on s'est pas occupé des Parisiens, des Franciliens.
Non, pas du tout. Il y a eu aucune mesure d'anticipation. C'est une réalité. On a abandonné les Parisiens à leur sort et on a rajouté du chaos au chaos. Voilà.
Adrien Jeanne.
Pendant qu'on est sur tous ces sujets, il y a une date qui se profile, c'est 2022, et certains qui n'attendent pas. Marine Le Pen cette semaine a fait un pas de plus en expliquant clairement qu'elle était en train de se préparer pour cette échéance. Comment est-ce que vous voyez une possibilité que ce duel Macron-Le Pen ne se reproduise pas en 2022 et le fait qu'elle commence clairement à se positionner, elle?
Moi, je pense qu'il ne se reproduira pas, mais c'est une intuition très personnelle. Ouais. Et puis, l'autre aspect, je ne vais pas commenter la candidature de Marine Le Pen. On parlait des grèves, des violences et autres. Je pense que les préoccupations des Français aujourd'hui, c'est comment on arrête ces violences, comment on arrête les grèves et l'élection municipale. L'élection municipale, ça va être aussi... On va y venir, oui, mais je peux peut-être juste finir ma phrase. L'élection municipale, ça va être la traduction, justement, de la position des Français aujourd'hui.
Un tout petit mot encore sur 2022. Quand vous dites oui. Les Français ne sont pas sur ça, et je ne vois pas pourquoi il y aurait ce duel à nouveau. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Non, mais moi, c'est une intuition par rapport à l'état du pays.
C'est-à-dire que les deux ne seront pas en finale pour vous, ni l'un ni l'autre, ou l'un des deux?
Vous apprenez jamais de l'histoire qui n'est pas si lointaine que ça. Est-ce qu'on aurait pu imaginer l'élection d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on aurait pu imaginer que notre candidat ne soit pas au deuxième tour?
Alors, jamais. Et la droite dans tout ça, Rachida?
La droite, elle est...
Qui pour la représenter? Est-ce qu'il faut une primaire?
Moi, je n'ai jamais été favorable à la primaire. Nous, à chaque fois qu'on a voulu imiter la gauche, ça s'est mal fini. Donc, c'est mieux, à un moment donné, d'assumer d'être à droite.
Alors, favorable à quelqu'un? À qui?
Voilà, il y a François Baroin, il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a vous.
Oui, alors?
Je ne sais pas, vous êtes pour
qui? Non, mais ce n'est pas The Voice, hein. Ce n'est pas un casting. La France est un grand pays. Il y a quand même des grands enjeux, vous avez vu l'état du pays. Donc je ne vais pas vous dire, je pense que celui-là, ce sont tous des gens de talent.
Non, mais il y a un homme dont on parle beaucoup, c'est François Baroin.
Oui,
est-ce que pour vous,
c'est un ami.
Cette alternative.
Les gens que vous avez cités, ce sont tous des gens de talent et de qualité. Moi, je ne vais pas me positionner aujourd'hui pour quelque chose qui est en 2022.
C'est une question que vous voulez pas y répondre parce que c'est trop tôt, mais c'est quand même une question.
Non, mais ils sont tous capables.
Ils sont au niveau de Nicolas Sarkozy, par exemple, qui lui a réussi à être élu président de la République.
Non, mais pour moi, Nicolas Sarkozy est hors concours. Ce qu'on a réussi en 2007, je pense qu'aucun président et aucun candidat, quel que soit, vous pouvez me dire, n'a réussi ce qu'on a réussi en 2007, quand même.
Donc ils ne sont pas
en termes de participation.
Sarkozy.
Et ça a été la seule élection depuis Jean-Marie Le Pen au deuxième tour où on a eu un vote d'adhésion.
Mais donc vous pensez qu'un candidat
d'adhésion
peut s'inviter dans ce duel dont tout le monde dit il est inévitable?
Bien sûr. Mais attendez, déjà les municipales. Non mais les municipales déjà, ça va cranter quelque chose. La droite, elle existe.
Vous avez vu que dans 10 jours...
La droite, elle existe, monsieur Brézet.
On va en parler.
Vous allez nous le montrer au municipal et on va en parler.
Juste
un petit mot.
Dans 10 jours, un petit mot encore sur la droite, Rachida Dati, pour terminer sur ce chapitre. Dans 10 jours, il y a François Fillon qui va passer 2 heures à la télévision. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment, de sa parole?
Il a peut-être des choses à dire, il a peut-être des choses aussi à expliquer, il a aussi son regard et son analyse. Franchement, ça s'est mal fini pour nous tous, et en particulier pour lui. Puis ça a été une épreuve aussi pour lui. Il a quitté la vie politique. Moi, je vais vous dire, parfois, on a l'impression, on n'est pas des robots, on n'est pas des Playmobil. Il a été affecté, je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas exprimé, peut-être sur le moment. Il faut prendre du recul pour pouvoir analyser tout ce qui s'est passé. Donc il a peut-être encore des choses à dire.
Avant de passer à Paris, juste un mot. Il y a une candidate.
C'est toujours
il y a la deuxième partie de l'émission, on va en parler beaucoup. Juste quand même un mot, il y a une candidate qui vient d'entrer dans le jeu, c'est Ségolène Royal. Vous pensez qu'il y a un espace aujourd'hui pour quelqu'un comme Ségolène Royal? Il y a un espace à gauche?
Mais la réponse que je vous ai faite pour Marine Le Pen ou d'autres candidats pour la présidentielle vaut pour Ségolène Royal. Elle se positionne pour 2022. Écoutez, moi, vous savez. On est déjà dans les municipales. Ça paraît loin et ça paraît proche.
Non, mais comment vous avez perçu ce qui est arrivé? C'est-à-dire qu'elle n'est plus ambassadrice des pôles. Elle dit, elle, qu'elle est privée, victime de sa liberté de penser, de parler. Est-ce que... Alors, vous avez sourire, je le dis.
Vous souriez
aux auditeurs, les téléspectateurs le voient. Que veut dire ce sourire? Est-ce que vous trouvez qu'elle est victime aussi de sa liberté de penser?
Pensez que ceux qu'on nommait, et Ségolène Royal à ce poste, ils allaient dire, c'est bon, ça va la museler. Il y a des trucs qui ne s'enlèvent pas, je parle aussi pour moi. Des trucs, vous pouvez vous réprimer, vous pouvez vous teindre en blonde, changer le côté de la raie, ça ne changera pas, des cheveux, ça ne changera rien. Voilà.
Mais bon, donc
voilà, donc ceux qui l'ont nommée savaient très bien qu'elle n'allait pas ne
plus
parler.
Elle avait toujours son ambition dans le sang.
Non, ils savaient qu'elle pouvait être candidate à l'élection présidentielle, ils savaient qu'elle pouvait parler, alors peut-être qu'ils espéraient qu'elle parle dans le
Mais vous y voyez une censure ? Vous y voyez une censure ?
Non, parce que je pense que ça a été... Enfin, pour moi, c'est un non-événement. Voilà, ça aurait pu être réglé différemment. La ministre de tutelle ou le ministre de tutelle pouvait l'inviter ou la convoquer en lui disant « Là, vous violez votre obligation de réserve. » Et ça se réglait comme ça dans un bureau.
Alors, on en vient au municipal et vous allez parler près des micros Rachida Dati pour qu'on vous entende bien. Dans ce contexte, donc, Emmanuel Macron a dit, en marge des vœux à la presse, que pour lui, l'élection municipale n'était pas une élection nationale et qu'il n'en tirerait pas de conséquences. Est-ce que pour vous, en effet, c'est d'abord un enjeu local et ça ne doit pas être nationalisé ?
Enfin, ça a toujours été le débat. Enfin, quand on était avec Nicolas Sarkozy, c'était aussi un débat. Pour François Hollande, ça a été un débat. Pour tous les présidents, les élections intermédiaires ont toujours été un débat. Moi, je pense que vous ne puissiez pas le traduire. À la limite, vous avez été élu comme président sur un programme et que vous puissiez ne pas remettre en cause le programme sur lequel vous avez été élu. Mais quand vous êtes un homme d'État, et vous voyez, parce qu'on ne le dit pas assez, parce que comme certains, maintenant, on a l'impression que, comme si on avait honte de tout, j'ai l'impression que même dans la famille politique, on aime l'autoflagellation. C'est pas mon truc. Je suis pas.
Donc,
je suis
donc
pas
il devra. Non, mais ça veut dire qu'il doit en tirer des conséquences si jamais.
Non, mais
son score
on a
pas,
fait des choses. Et quand on est président de la République, qu'on a été élu, on a un programme, on essaye de le mettre en œuvre. Et puis, il y a des circonstances qui arrivent parfois où vous êtes. Justement, c'est là où vous montrez si vous êtes un homme d'État ou pas. Vous réadaptez. Quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007. Personne n'avait vu arriver la crise financière de 2008. Il a fait une présidence européenne exceptionnelle. Tout le monde lui a reconnu. D'ailleurs, pour les sujets dont on pourra parler tout à l'heure d'écologie, qui a cranté le Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy. Qui met le paquet énergie-climat à l'ordre du jour de l'Union européenne, qui aujourd'hui, toutes les mesures en Europe, dont les États membres, c'est en raison de ce qui avait été adopté dans le cadre de la présidence française. Non mais c'est pas mal de rafraîchir parfois la mémoire, de vous rafraîchir aussi la mémoire un peu, c'est pas inintéressant.
Et donc
Nicolas Sarkozy avait revu son programme en raison, rappelez-vous, c'était l'histoire du bouclier fiscal ou pas. Il le revoit parce qu'on a la crise financière.
Et donc par exemple, c'est qu'Emmanuel Macron doit tenir compte d'un scrutin.
Je pense quand vous êtes un homme d'État, vous avez certes un programme, vous avez été élu pour 5 ans, vous mettez en œuvre vos réformes, moi je vais pas le contester en disant il a été élu, légitime. Effectivement, c'est le président de la République qui met en œuvre ses réformes. Mais si, effectivement, vous avez des élections municipales qui peuvent être totalement à rebours de votre famille politique ou de votre majorité, on peut peut-être s'interroger.
C'est-à-dire, par exemple, est-ce que ça veut dire changer de Premier ministre, faire un référendum sur les retraites? C'est quoi?
Non, mais ça, c'est des mesures techniques. Pardon. Avec tout le respect que j'ai pour l'institution du Premier ministre. Mais changer un gouvernement, c'est une mesure technique. Si vous changez le décor et pas le fond, ça ne sert à rien.
Changer de politique. Voilà. Un acte 3.
Moi, je pense que vous ne pouvez pas dire je ne vois pas ce qui se passe. Puis de toute façon, en fait, pour vous dire la vérité, tous les présidents regardent. C'est pas vrai. Voilà.
Alors, Rachida Dati, on va revenir
vraiment
avec
municipal,
ça. Ce matin, il y a un sondage très intéressant qui est publié par nos confrères de l'IFOP dans le journal du dimanche, qui vous place à 19% en deuxième position. Un bond par rapport à la précédente enquête qui avait été réalisée.
Ça a choqué quelqu'un.
On va rester concentré sur Paris, puisque vous voulez absolument parler municipal. Vous êtes en deuxième position, c'est-à-dire que potentiellement c'est vous l'alternative à ce stade à Anne Hidalgo. C'est-à-dire que vous tendez la main ce matin par exemple à Benjamin Griveaux en se disant on peut travailler ensemble et faire sortir la maire sortante.
D'abord sur ce sondage, c'est vrai, on a le mani de dire non mais on ne regarde pas les sondages. Oui, moi je ne regarde pas les sondages parce que vous savez, je suis toujours, d'abord, je crois pas assez, je me dis non, c'est sûr,
mais
c'est pas sûr et tout.
Non, vous
le regarde, je vais vous dire pourquoi je le regarde. Parce que avant l'été, certains se posaient même la question d'examiner ma candidature en CNI. Donc voilà.
Commission
d'investiture.
C'est vous.
Donc il y en avait même certains qui disaient non, n'ayons pas de candidat LR. Non, mais ça n'existe plus. N'ayons pas de candidat LR à Paris. Parce que franchement, on risque encore de tout perdre. Déjà, ça fait depuis 2001 qu'on perd tout. Et donc voilà. Donc surtout pas. Donc qu'est-ce que demande ce sondage? C'est une note d'ambiance. Je vais vous dire, c'est une note d'ambiance.
Alors, c'est quoi l'ambiance?
Et qu'est-ce que ça traduit? Et moi, je suis ravie que toutes les têtes de liste à Paris, renouvelées, jeunes, renouvelées, avec de l'expérience, soient présentes aujourd'hui à mes côtés. Qu'est-ce que ça demande? C'est qu'avec ces gens-là, qui sont effectivement aujourd'hui présentes et à mes côtés, depuis des semaines, des mois, je fais campagne de terrain. Je crois au terrain. Vous le savez bien. Non, mais je crois au terrain. Ça démontre quoi? Ça démontre que les Parisiens attendent de vous une solution au déclin de Paris. Et ils ont compris que le vote utile, ça pouvait être moi.
Ah, le vote utile, c'est vous. C'est pas Benjamin Griveaux. C'est vrai que vous nous dites, les gens qui, de droite, pouvaient voter Benjamin Griveaux, vous leur dites aujourd'hui, solennellement, la droite, c'est moi, votez pour moi. Pas
c'est
pour Griveaux.
C'est Sportouche, très sérieusement. Je crois au terrain. Je parle aux gens. Moi, j'ai été très surprise, pour ne pas dire choquée. Je fais campagne dans le nord et l'est de Paris. Quand je vais dans le 19e arrondissement avec Marie Toubiana, dans effectivement la cité Calberson qui dépend de Rosa Parks, des ensembles de logements sociaux qui ont été logés par la gauche, sans chauffage, sans eau chaude, parfois même
sans
eau, des
fois des
semaines.
Non mais
pourquoi je vous dis ça? Quand je vais dans le 18e arrondissement, que vous avez la colline du Crac en bas de chez vous, quand je vais avec Jean-Baptiste Olivier, effectivement, dans les tours du quartier Villa d'Est, où sur votre palier, vous avez du deal, de la prostitution, des SDF, sur votre palier, au cœur de Paris, quand je vais avec Valérie Montandon...
Mais vous n'êtes pas la seule à dénoncer tout ça, les autres candidats font exactement
la même chose. Et Bercy, où effectivement, des personnes âgées disent, écoutez, nous, on n'ose même plus de sortir de notre appartement, c'est entre l'anarchie de la mobilité sur l'espace public, les trafiquants qui viennent, effectivement, qui disent... sur mon palier. Est-ce que c'est ça, Paris? C'est vrai. Est-ce qu'on peut continuer comme ça?
Et tout le monde veut changer
dans
cette campagne.
Quand je vous dis, je suis choquée, c'est que notre famille politique ont abandonné ces arrondissements. Ils ont abandonné les Parisiens populaires. Donc c'est normal qu'ils nous tournent le dos.
Donc c'est pas forcément mais... Hidalgo, mais c'est aussi votre parti.
Mais non, mais ce que je veux vous dire, oui. C'est qu'effectivement, ils se disent... Parce que moi, ils disent, madame, vous avez vu ce que la gauche nous a fait? On est exaspérés, on vote plus. Mais ça arrange madame Hidalgo que ça ne vote plus. Moi, je veux qu'ils votent, qu'ils traduisent leur exaspération et leur écœurement. Je veux qu'ils votent.
Oui, nous avons un projet... Pour Benjamin Griveaux, vous leur dites mais aujourd'hui...
Mais moi, mon sujet, c'est pas Benjamin Griveaux. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que les Parisiens, comme les Français, ne supportent plus les accords d'appareil, ne supportent plus...
Vous aurez besoin de monde.
Ne supportent plus ni les accords d'appareil, ni les débauchages. Là, maintenant, alors, on a essayé de débaucher chez nous, et puis ça n'a pas suffi. On a essayé de débaucher les ministres, et ça ne suffit pas. Et on prend l'adversaire, et ça ne suffit pas. Moi, vous savez ce que je fais? Je débauche les Parisiens.
Enfin, d'accord, mais alors comment vous faites, pardon, avec les Parisiens du 15e arrondissement? Là, on sent qu'il y a un problème. Il y a un maire qui est là depuis longtemps, qui est Philippe
Goujon. Peut-être trop longtemps, parfois, non?
Trop longtemps, vous dites.
Non.
Philippe Goujon, qui est implanté. C'est important. Pour gagner Paris, vous dites que votre ambition, c'est de gagner Paris. Le 15e arrondissement, c'est important. Mmh. Et vous n'arrivez pas à vous entendre avec Philippe Goujon, ou il ne veut pas s'entendre avec vous, vous ne voulez pas vous entendre avec lui.
Monsieur Brézet, je vous dis, monsieur Brézet, moi, dès le départ, je parle en présence d'Agnès Evraine qui est ici, que j'ai soutenue pour la Fédération de Paris, qu'elle a dynamisé, qui était endormie depuis un moment, qu'elle a dynamisé. Elle incarne un visage, elle incarne un parcours, une expérience. Avec elle, on a revitalisé la Fédération, on va revitaliser Paris avec tous les candidats qui sont ici.
Vous êtes en train de dire,
donc moi, je ne suis pas rentrée dans les négociations de dire, je vais te sauver ton poste, viens avec moi, je t'en supplie.
Non, mais les maires sortants, les noms...
Mais franchement,
vous voulez pas
vous prennent comme avocat, vous êtes
mais, non,
mais ça marche pas
du tout.
Sur les marchés, vous disiez clairement, votez pas Goujon.
Non, j'ai dit, ne me soutiens pas, Goujon ne souhaite pas me soutenir. C'est le soutien indirect de madame Hidalgo. C'est ce que j'ai dit aux électeurs du 15e. Il trahit ses électeurs, moi je les trahirai pas. Je dis aux habitants du 15e, je serai à vos côtés, nous allons gagner. Je ne les trahirai pas.
Donc il y a plus de réconciliation possible, ça.
Non, mais on n'est pas en contentieux.
Bah quand même.
Mais non, mais.
Il y aura peut-être deux candidats de droite.
Non, mais on peut se dire... Non, mais si vous n'êtes plus LR, si vous ne soutenez pas ni les valeurs, ni le candidat qui a été officiellement investi, c'est que vous n'êtes plus vraiment LR. Si LR devient juste un coup de peinture,
mais
c'est pas...
Mais est-ce que tout ça, c'est symbolique aussi de l'état de la droite aujourd'hui qui n'arrive pas à se retrouver?
C'est l'état de la droite parisienne depuis 2001.
Et la droite nationale, globalement,
non, la droite... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La droite nationale, depuis que Christian Jacob a repris le parti, depuis, tout le monde est revenu. Jean-François Copé, François Baroin, des gens qu'on ne voyait même plus en réunion en parti. Mais quand même, je ne veux pas non plus qu'on jette tout... Enfin, Laurent Wauquiez a fait aussi un travail formidable pour notre parti. Il faut arrêter aussi d'accabler. On s'accable tous les uns les autres.
Il y a un sujet dans cette campagne, c'est le logement.
Oui.
Anne Hidalgo met 20 milliards sur la table en disant, voilà, il faut créer 30 000 logements. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, pour sur ce dossier très sensible?
Pourquoi pas 50 milliards? Pourquoi 100 milliards?
C'est de la poudre aux yeux.
20 milliards, pas de la mairie de Paris, mais avec un assemblage financier.
On était à 1 milliard d'endettement en 2001. On est à plus de 6,5 milliards aujourd'hui. Que des dépenses de fonctionnement. On peut peut-être arrêter de faire des dépenses qui... Est-ce que les Parisiens vivent mieux? Vous vivez tous à Paris. Enfin, vous n'allez pas me répondre, mais vous n'en pensez pas moins, je le dis. Mais est-ce que les Parisiens vivent mieux? Est-ce qu'ils ont moins de stress? Est-ce qu'ils ont des conditions de logement exceptionnelles? Est-ce que vous circulez bien? Pour venir chez vous, c'est compliqué. Vous le savez bien.
Donc son mandat,
pour traverser de chez vous à M6, c'est toujours le M6 en face. Enfin, franchement, prenez une assurance vie avant.
Non, mais c'est
tout est compliqué.
En tête quand même de ce même sondage dont nous parlions tout
Pardon
à l'heure. Anne Hidalgo est quand même en tête du premier tour. Vous entendre, elle devrait être très loin.
Puis à vous entendre, je ne devrais même pas exister.
Moi, j'ai rien dit. Voilà. C'est dans votre camp.
À vous entendre, moi, j'entends personne, j'entends les Parisiens. C'est ce qui m'intéresse.
Donc, son bilan est totalement négatif.
Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que les Parisiens vivent mieux? Est-ce qu'ils sont bien logés? Je vous parle du logement social.
Alors, sur le logement,
il y a deux aspects. Il y a le logement social. Oui, on en parle, c'est dans le débat. Alors, on dit, oui, est-ce qu'il faut plus, est-ce qu'il faut moins? Oui, la mixité, pas la mixité. Moi, je suis une enfant du logement social. Je sais ce que c'est, je sais à quoi ça sert. Vous savez, les gens qui sont dans le logement social, c'est pas la charité. Ce sont des gens qui travaillent, qui payent leur loyer. Même quand ils ont un trou dans le plafond, une fissure dans le plancher, que l'ascenseur est en panne depuis un an, ils payent leur loyer. Même quand la cave est devenue des latrines, ne pour pas dire
pire. Vous allez la remettre.
Franchement, sur le logement social, ouais. Non mais tous les endroits. Vous savez, j'étais dans le 11e il y a deux jours. Boulevard de Ménilmontant, la rue de Lorient. Ce sont les lieux où il y a le plus de deals de trafic dessus, ouais. C'est les endroits les plus pauvres. Non seulement il y a une densification du logement social, mais le plus bas, mais là, ils viennent de repréempter. C'est le quartier le plus pauvre, les quartiers le plus pauvres, mais on va rajouter. Donc je le dis aux Parisiens, dans ces endroits, on va rajouter du logement social. Ce qu'ils disent, la gauche, elle s'est toujours gargarisée. La mixité sociale, non, elle ne fait pas de mixité sociale, elle fait des ghettos. Nous avons des territoires perdus de la République. En France, on en parle comme si c'était loin. Nous en avons au cœur de Paris. J'en ai dans le 7e.
Mais donc il faut en mettre davantage.
Quel pourcentage dans le 7e?
Non mais c'est aussi une question de foncier.
Quel pourcentage?
Mais non mais ça n'est pas très élevé, je vous le concède. Mais j'ai accepté d'en avoir.
Si vous voulez pas de ghetto, là où
c'est
pauvre.
Vous savez, l'ancien site du ministère de la Défense, il y aura 251 logements sociaux. Sur le site, l'ancien site du conseil régional, 116 logements sociaux. Mais moi je sais ce que c'est la mixité, monsieur Sportouche. Non, il y aura des étudiants, 116 logements sociaux étudiants. Il y aura par exemple sur le site du ministère de la Défense, je l'ai négocié pour avoir du logement pour les policiers, pour des militaires, pour des soignantes, pour des infirmières dans le 7e arrondissement.
Au total, il faut plus de logements sociaux, de logements intermédiaires.
Non, mais regardez, la gauche, elle a fortement... Non, parce qu'elle fait du quantitatif.
Vous en parlerez.
Moi, je dis, il faut faire de la mixité.
Vous en parlerez, Rachidati,
sur le logement.
Face à David Bellard, parce que c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Rachida Dati. Alors, les anti-PMA se mobilisent actuellement sur les réseaux sociaux et ils vont manifester aussi aujourd'hui dans la rue. Si vous revenez au pouvoir, est-ce que vous comptez abroger la PMA pour toutes?
Moi, je vais vous dire, le sujet de la PMA m'a toujours un peu gênée pour des raisons d'éthique. Moi, je trouve que l'éthique, c'est comme la fin de vie. Je trouve que ce sont des sujets très intimes, très personnels. On peut avoir des sensibilités en fonction de son vécu, en fonction des gens qu'on rencontre. En plus, j'étais magistrat. Donc, les sujets de PMA, j'ai pu, effectivement, avoir à en traiter. Moi, ce qui me gêne dans le texte tel qu'il est, c'est que la PMA ouvre la porte à la GPA. Moi, je suis fondamentalement contre la GPA. J'ai vu
mais
tellement...
Mais du coup, sur la PMA, non, mais, est-ce qu'il faut revenir dessus?
Non, mais... Vous savez, comme mère, j'inscris à la crèche des enfants nés de PMA. Ce sont des situations individuelles. Ce sont aussi des parcours particuliers.
Vous inscrivez aussi des enfants de GPA, issus de GPA.
Mais je vous dis, j'en ai eu.
Alors, est-ce qu'il faut autoriser la filiation et la reconnaissance
légale? Les enfants nés de GPA ont une filiation, parce qu'on a l'impression que les enfants nés de GPA n'ont pas de filiation.
Mais il faut qu'il y ait une reconnaissance et une inscription.
Ça a été le cas. Parce que les enfants ne doivent pas être victimes de décisions de leurs parents.
Donc, ce que je vous dis. Il y a une circulaire dans ce sens-là.
Ce que je veux.
Du ministère de la Justice, vous savez que ça peut...
Non, parce que ce n'est pas une circulaire. Non, moi, je ne suis pas favorable à une circulaire. Parce que la circulaire, ça fait quasiment force de loi dans certaines situations. Ce que je veux vous dire, on a un vrai sujet, par exemple, qu'on aurait pu lier avec la PMA. C'est le sujet de l'adoption. Vous savez, le sujet de l'adoption en France est très compliqué. Moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, vous savez, madame, je vais aller à la PMA parce que c'est tellement compliqué d'adopter. Peut-être qu'on peut lier les choses et les deux.
Mais vous ne serez pas dans la rue avec François-Xavier Bellamy tout à l'heure.
Pardon ?
Vous ne serez pas dans la rue avec François-Xavier Bellamy.
Mais je n'ai jamais manifesté. Moi, je trouve
et que François Xavier Bellamy soit, est-ce que ça vous...
Mais non, mais c'est son choix personnel. Mais je suis pas. Enfin, c'est son choix personnel. Mais ce sujet, ce sont des sujets extrêmement sensibles. Mais il faut accepter aussi que toutes les sensibilités puissent donner leur avis.
Oui, cette fois-ci, ça concerne l'affaire Carlos Ghosn. Alors, vous en doutez, les internautes n'arrêtent pas d'en parler sur les réseaux sociaux, surtout avec son évasion. Vous, vous êtes mis en cause pour l'avoir conseillé en tant qu'avocate. Est-ce que vous craignez une mise en examen pendant la campagne des municipales?
Moi, je l'ai dit, je me suis toujours expliqué très clairement. Il n'y a pas de plainte de Renault contre moi. Mm-hmm. Ça n'est pas une affaire Dati, c'est une affaire Renault-Nissan. Voilà. Je ne suis pas partie à l'affaire. J'ai donné des éléments. Parce qu'effectivement, je suis avocate, comme de nombreux parlementaires d'ailleurs, parce que j'étais parlementaire à l'époque. J'ai été avocate, j'ai donné, c'est mon métier, parce que je suis devenue avocate parce que j'étais magistrate. Tout ça a été très clair, mais moi je ne veux pas mêler les enjeux nationaux, pour ne pas dire les enjeux locaux, avec les boules puantes. Effectivement, c'est une plainte d'un avocat obscur, dont j'ai déjà expliqué, mais tout
vous
ça va être dans la clarté.
Vous ne craignez pas d'être empêchée par cette
affaire ? Non, mais non, moi je suis très tranquille là-dessus.
Autre question ?
Oui, alors cette fois-ci, pour revenir un peu sur la campagne des municipales, votre position sur les salles de shoot à Paris a évolué. Vous n'y êtes désormais plus hostile, mais c'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations chez les Parisiens. Si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous comptez ouvrir des salles de shoot à Paris ?
Je vais vous dire, la colline du Crac, je crois que je dois être la seule élue à aller à l'intérieur, là où il y a les clients, là où il y a les dealers, là où il y a des gens malades. Moi, le jour où j'y suis allée, il y avait une femme qui avait accouché la veille, comme ça, en pleine nature. Le sujet de la salle de shoot, d'ailleurs, il y a plein de craqueurs à Paris. Comment c'est pas à gérer ? On va faire un bus des craqueurs, on va les promener dans Paris, je le dis aussi.
Un bus des craqueurs ?
Oui, c'est de la gauche. C'est une proposition d'Anne Hidalgo. Ils vont mettre un bus où ils vont effectivement promener les craqueurs dans le bus. Bon. La salle de shoot, moi je vais vous dire, vous savez, la toxicomanie, franchement, quand les gens sont concernés par ça, c'est destructeur. Les salles de shoot, je n'y suis pas favorable parce que les salles de shoot, on conforte une addiction. Moi je voudrais qu'il y ait un aspect sanitaire qui n'existe pas aujourd'hui. Celle de Strasbourg est très bien faite, elle est adossée à un hôpital, il y a un aspect sanitaire, ça n'est pas le cas à Paris, donc je ne suis pas favorable à cette forme-là.
Merci Rachida, c'est la fin de ce premier. Première partie du Grand Jury, on vous retrouve dans quelques instants pour le premier grand débat des municipales pour la campagne parisienne. Vous serez face à David Béliard, candidat écologiste. À tout de suite.
Jury RTL Le Figaro LCI, spéciale élection municipale. Deux candidats à la mairie de Paris. Rachida Dati, LR, face à David Béliard pour Europe Écologie Les Verts. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Retour donc dans ce grand jury spécial municipal. Bonjour David Béliard.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints donc pour débattre face à Rachida Dati. Alors vous avez dit, David Béliard, que vous vouliez, je vous cite, empêcher une alliance rétrograde Dati-Griveaux d'arriver au pouvoir. Qu'est-ce qui vous a semblé, dites-nous, rétrograde dans ce que vous avez entendu dans ce début d'émission ?
Bah d'abord parce qu'on n'a pas parlé du tout d'écologie, on n'a pas beaucoup parlé, vous n'avez pas évoqué la question du climat, des dérèglements climatiques, et d'ailleurs c'est par ça que je voudrais commencer notre débat. Je suis très heureux d'ailleurs de pouvoir débattre avec vous, on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis que vous avez été désigné par les Républicains comme candidate à la mairie de Paris. Et puis, moi, je voulais vous parler d'abord, en premier lieu, effectivement, de cette question qui est une question centrale pour Paris, mais plus globalement pour l'humanité, la question du dérèglement climatique. Vous l'avez vu comme moi, il y a eu des images catastrophiques, des méga-incendies en Australie, des kangourous qui fuyaient littéralement ces incendies, des milliards et des milliards d'espèces vivantes qui ont été tuées. Et ces incendies, eh bien, ils s'ajoutent aux incendies qu'on a connus en Amazonie. Ils s'ajoutent à l'accélération de la fin de la banquise, la disparition de la banquise. Et puis plus proche de nous, à Paris, eh bien, nous avons connu l'été dernier des canicules, avec plus de 42 degrés de pic de chaleur, avec une ville qui est devenue véritablement un four, qui met en danger d'ailleurs la santé des plus vulnérables, des enfants, des personnes âgées, avec les pics de canicule, avec les pics de pollution.
Donc vous n'entendez rien dans le discours, Rachida Dati, là-dessus ?
Alors j'entends, parce que je vous écoute depuis que vous êtes parti en campagne, vous parlez beaucoup du climat, vous parlez d'ailleurs de l'accompagnement, notamment pour les grandes entreprises, mais je n'ai pas entendu de mesures concrètes pour transformer véritablement Paris et sa métropole, pour l'adapter à cette nouvelle donne climatique. Alors, qui est un enjeu fondamental pour cette municipalité.
Rachida Dati va vous répondre, et notamment, je rajoute cette question sur la piétonnisation des voies sur belge, est-ce que vous reviendriez dessus ? C'est un sujet important pour les Parisiens, si vous arrivez aux responsabilités à la mairie de Paris. Sur ce point, est-ce que vous revenez ou pas sur la piétonnisation des voies sur belge ?
Je vais y répondre, ne vous inquiétez pas.
Bah, là, vous pouvez y répondre.
Non, parce que...
Bon, je vous laisse.
Oui, mais on a de toute façon, ça va être dans le débat. Alors, Monsieur Béliard, pour moi, l'écologie, ce n'est pas du dogmatisme. C'est ma conception, c'est la manière dont je fais. Quand j'ai élaboré mon programme, et nous sommes tous les deux élus parisiens, et comme conseiller Paris, c'est vrai qu'on s'intéresse à tout Paris, donc on voit tout ce qui se passe à Paris. Qu'est-ce que je constate, Monsieur Béliard ? C'est quand je vais sur le terrain, c'est qu'on a une augmentation... Moi, l'écologie, c'est de vivre bien. Moi, je pense qu'il faut vivre bien, être en harmonie avec son environnement et être dans le bien-être. Les Parisiens sont soit dans le stress, soit les problèmes de santé. Vous savez, je trouve que...
Et vous demandez une mesure concrète.
Oui, mais la mesure concrète, on a de plus en plus de pollution sonore. Moi, j'ai rencontré... Il n'y a jamais eu, sous cette mandature, depuis cette mandature, de nombreux collectifs et associations qui se sont créés, pas pour la promotion d'un événement, ou même, évidemment, pour des questions ou des enjeux climatiques ou environnementaux. Tous ces collectifs, tous ces riverains, toutes ces associations sont constituées pour contester les projets parisiens et certaines, le réseau Vivre Paris, le collectif Timbaud-Ménilmontant, tout ça, non mais contre les nuisances sonores. Non mais
les nuisances sonores. Sur les nuisances, même la pollution sonore. Nous, on parle de pollution sonore.
Alors, non mais juste, je vous ai laissé.
Une mesure concrète.
Sur les nuisances sonores, quand vous avez des gens qui vous disent je ne peux plus dormir, tellement il y a de nuisances sonores. Quand vous avez, effectivement, en piétonnisant, par l'idée de piétonnisation, jamais, et je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai été la première à voir la fermeture des voies sur berge dans le 7e arrondissement. Pourquoi je me suis opposée ? Pas parce que c'est très agréable de se balader au bord de la Seine, mais quand on ferme des axes entiers, des axes traversants d'une ville, c'est une artère dans le vrai sens du terme.
Donc vous reviendrez,
d'une ville.
Revenir sur la piétonnisation.
Écoutez-moi,
vous l'avez fait voter. Vous l'avez fait voter dans la mairie du 7e.
Écoutez, Monsieur Béliard, je veux vous dire, quand on a des axes majeurs comme ça, vous les fermez d'un coup de trait de plume, où sont les reports ? Le nord et l'est. Monsieur, effectivement, j'ai effectivement les candidats du 18, du 19, du 20e qui sont à la François-Marie Didier, Rudolf Garnier, je les cite, Marie Toubiana. C'est les endroits les plus pollués en raison des reports liés à la piétonisation.
Alors partons sur les propositions.
Donc qu'est-ce que vous faites sur les piétonisations ?
Nous, on a proposé par exemple la piétonisation des abords des écoles, les 300 écoles qui sont les plus polluées, et notamment dans les arrondissements que vous citez, 18e, 19e, 20e arrondissement. Moi,
Monsieur Béliard, vous êtes un spécialiste de ça. Est-ce que de fermer la rue devant l'école, ça empêche la pollution ? Vous savez très bien que c'est l'axe environnant. Moi, j'ai la rue de Chaumel dans le 7e, c'est le boulevard Saint-Germain
qui
pollue,
c'est pas la rue Chaumel.
Et bien justement, sur la pollution, écoutez, les écoles sont toutes affectées par la pollution en particules fines. Moi, je souhaite de mettre des purificateurs d'air dans toutes les écoles.
Mais les purificateurs, ce n'est pas une question pour diminuer...
Non, mais c'est-à-dire que ça ne va jamais.
Mais non, mais vous ne diminuez pas la pollution de l'air.
Non, mais si, on diminue...
Non, vous ne diminuez pas la pollution de l'air.
Si, parce que vous avez déjà un air plus pur pour les enfants.
Vous le savez, c'est la question en fait, de l'automobile qui pose une question, notamment en termes de pollution et de qualité de l'air.
C'est à peine 12% des déplacements parisiens.
Oui, 12% des pollutions, mais c'est 50%, c'est plus de 50% de l'émission des microparticules.
Alors, je veux dire,
vous ne voulez pas, soyons clairs, vous ne voulez pas baisser le nombre d'automobiles à Paris.
Je veux vous dire, vous aurez toujours des gens qui prendront l'automobile, parce que, Monsieur Béliard, tout le monde n'est pas en bonne santé comme vous et moi, tout le monde ne travaille pas très loin de son lieu de travail, tout le monde n'a peut-être pas... moi j'ai un enfant, mais vous avez des familles, vous avez des artisans. Moi j'ai des artisans, ils me disent non seulement on met 2 heures pour arriver chez le client, on débouche un évier, on redescend, on n'a plus de voiture. Voilà ce que vous avez généré.
En même temps,
sur la place de la voiture.
La piétonisation, on n'a toujours pas très bien compris
Hidalgo
ce que vous vouliez en
faire. Madame Hidalgo a proposé, et vous êtes, puisque vous êtes dans sa majorité, donc vous en êtes comptable, de pouvoir piétoniser depuis la place de l'Étoile, en passant par la place de la Concorde et la rue de Rivoli. Mais vous tuez Paris. Quelles sont les victimes ?
Est-ce que c'est ce que vous voulez faire, David Béliard ? On va laisser répondre David Béliard là-dessus.
Parce que vous savez, non mais monsieur Sportouche, vous savez comment ça se passe quand on ferme des rues, on piétonise ? C'est-à-dire qu'on fait ça en catimini, on ferme par
Alors David Béliard va vous répondre. Non, David Béliard, juste un point. On dit que vous voulez faire de Paris une vélopole, une sorte de Copenhague sur Seine, c'est ce que vous dites. Est-ce que justement vous entendez ce que vous dit Rachida Dati sur cette asphyxie qui risque d'en découler ?
Surtout, ce que j'entends, c'est que vous ne souhaitez pas modifier Paris, vous ne souhaitez pas adapter Paris au dérèglement climatique et surtout, vous ne souhaitez pas agir pour la santé. Et notamment des enfants. Parce que nous avons une question de pollution de l'air. La moitié des microparticules est liée à la circulation automobile.
Si vous aviez empêché les embouteillages de nuit et de jour,
moi aussi, je fais une campagne de terrain, je vous ai écouté. Moi aussi, je fais une campagne de terrain. Ça fait presque 8 mois que nous sommes partis avec l'ensemble des têtes de liste. Et je vais vous dire, je les vois aussi, les parents qui me disent que les enfants sont malades, leurs enfants sont malades.
Mais vous
malades,
dites qu'ils sont très contents liés, de la majorité actuelle.
Liés à la pollution de l'air. Et moi, je veux répondre à ça. Moi, je veux que nous ayons améliorer la qualité de l'air.
Juste une question. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 20 ans?
Mais parce que nous sommes minoritaires.
Vous appartenez à la majorité de Mme Hidalgo, M. Béliard.
Vous savez, Mme Dati.
Vous appartenez à la majorité de Mme Hidalgo.
Oui, ça ne vous a pas échappé. En effet.
Non, mais c'est bien de le dire.
Mme Dati, vous savez que nous avons des divergences avec. Madame Hidalgo,
oui, mais vous êtes dans sa majorité.
Ça ne vous a pas empêché d'ailleurs de venir sur un certain nombre de nos positions au Conseil de Paris, notamment pour nous opposer ensemble à un certain nombre de projets de bétonisation. Donc vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes que cela.
Et moi, vous auriez pu le faire avant pour les questions de pollution et de santé. Ça fait
plusieurs années que nous avons développé, écologistes à Paris, un projet qui est un projet singulier, et vous le savez.
Je voudrais revenir sur la question de l'aménagement de Paris.
Moi, ce que je propose, c'est effectivement de transformer Paris, c'est de libérer Paris de la voiture, alors pas de toutes les voitures. Pas, évidemment, je ne souhaite pas empêcher les personnes, notamment en mobilité réduite, de ne pas pouvoir prendre leur voiture. Mais oui, je crois qu'il faut, faire de Paris une vélopôle, améliorer la place pour permettre aux gens qui veulent marcher de le faire en toute sécurité. Et puis, trois, et là d'ailleurs, vous êtes aux responsabilités à la région, améliorer les transports en commun parce que le bilan est catastrophique sur la question des transports en commun. Alors, c'est ça que je souhaite faire.
On va laisser répondre à Chanati. Vous voulez aussi, je précise, David Béliard, supprimer le périphérique parisien.
Transformer le périphérique.
Avec une circulation, mais beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Est-ce que sur ce point-là, vous pensez qu'il faut aussi avancer sur cette amélioration du périphérique parisien?
Paris, c'est 102 km². Enfin, les vélopoles, même Londres, 1200 km². Berlin, mais c'est 10 fois plus grand, mais ce ne sont pas les mêmes échelles. À Strasbourg, le vélo est en harmonie avec les autres modes de transport et de mobilité. Moi, je ne suis pas contre le vélo, mais la trottinette... Non mais les trottinettes, l'anarchie. Vous avez des personnes âgées qui vous disent « on ne sort plus, on ne sort plus, nous sommes en danger ». En fait, ce que vous souhaitez, c'est une régulation économique, puisque vous souhaitez réduire les trottinettes. Nous, on veut une régulation de l'espace public. Il faut une harmonie de la mobilité. Vous dites, vous voulez de l'innovation, vous n'anticipez pas les mobilités de demain. Moi, ce que je veux, c'est que si demain je suis maire de Paris, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre des experts, les élus, je vais dire à l'échelle de Paris, comment on construit la mobilité à Paris. Que ce soit des vélos, les deux roues, les voitures.
Alors, est-ce que
comment construit la mobilité à Paris? Et je demanderai au maire d'arrondissement de le soumettre aux Parisiens et non pas comme on fait aujourd'hui. On découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi. On découvre un matin qu'un tunnel est fermé.
Je ne crois pas que vous découvriez dans votre arrondissement la création des pistes cyclables.
Je vais vous donner un exemple.
Je suis pour donner plus de pouvoir au maire d'arrondissement que vous êtes. Donc, je n'ai pas de sujet avec ça, mais... Moi, en fait, ce que j'entends surtout, c'est que vous n'avez pas de propositions concrètes.
Vous êtes content de l'anarchie à Paris?
Mais bien sûr que je fais le même constat que vous, Madame Dati.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas régulé avant?
Mais ça fait des mois et des mois que je le dénonce. Ça ne vous a pas échappé, nous avons moins d'influence sur cette majorité.
Oui, mais ça fait des mois et des mois que vous le dénoncez. Ça fait des années et des années.
Parce que nous avons...
Les
trottinettes, c'est pas 10 ans.
Après l'élection, vous allez vous retrouver avec Madame Hidalgo. Donc, on prend les mêmes et on recommence.
Eh bien non, Madame Dati, nous irons là où nous pourrons transformer la ville. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que je serai maire de Paris. Parce que, en fait, la coalition pour le climat que j'ai appelée de mes voeux, eh bien, la première de ces caractéristiques, c'est que nous serons, écologistes, moi, David Béliard, mais aussi l'ensemble des têtes de liste, notamment dans l'Est parisien, eh bien, pourront gouverner
les élections.
Nous verrons. C'est la question du contenu, c'est la question du projet, c'est la question de ce qu'on veut faire pour Paris. Moi, ce que j'entends là, aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de propositions concrètes.
Si, sur la mobilité,
aux cyclistes, que dites-vous aux gens qui, aujourd'hui, souffrent de la pollution?
Vous avez dû rencontrer
Sur le logement, puisque c'est aussi une question qui est dans le débat. Qu'est-ce que vous proposez concrètement sur ce
sujet? Sur le logement, j'ai expliqué tout à l'heure ma vision du logement social. Moi, je voudrais... Le parc social aujourd'hui est très abîmé, très dégradé. Et les bailleurs sociaux ont une responsabilité. Ça, on était à peu près d'accord parce qu'on a voté des positions communes. Parce que les bailleurs sociaux ont du mépris pour ceux qui le logent. C'est un habitat très dégradé. Donc moi, j'essaie de le réhabiliter.
Alors,
vous avez de nombreux Parisiens qui aujourd'hui peuvent accéder au logement social. Ils n'y accéderont jamais parce qu'ils ne sont pas prioritaires. Puis vous avez les classes moyennes, même un peu supérieures, qui évidemment ne peuvent pas accéder au logement social, ne sont pas éligibles, et au parc privé, c'est trop cher. Moi, ce que je souhaite, c'est que le constat que je fais, c'est que les familles, qu'elles soient classe moyenne, classe populaire ou classe moyenne supérieure, elles ont tous la même difficulté. Dès qu'elles veulent fonder une famille, c'est compliqué.
Donc vous faites quoi ?
Dès qu'on veut déménager, c'est compliqué.
Là, vous faites
moi,
quoi ?
Je souhaite
là, on
part créer...
Le même constat,
non, mais je... Voilà,
alors,
je suis ravie. Je souhaite créer un chèque Paris d'avenir pour toutes les familles, qui souhaitent s'agrandir. C'est-à-dire que vous déménagez parce que vous allez avoir un enfant, c'est 1 200 € par an pour toutes les familles. Vous avez un nouvel enfant, et ça, vous aurez 1 200 € par an pour pouvoir effectivement déménager, agrandir. Attendez, agrandir. Pendant 3 ans, qu'est-ce que c'est cette mesure ? C'est une mesure qui complétera, qui restaurera la politique familiale que François Hollande a totalement fracassée en supprimant toutes les aides. Il ne vous a pas échappé qu'entre 2018 et 2019, on a eu 6 000 naissances de moins en France.
Combien
c'était
ça
jamais
coûte,
arrivé.
Ça, attendez, on va laisser répondre à parce qu'on arrive
puis,
au terme de ce débat.
Il y a 27 000 enfants naissants par an à Paris. On a perdu plus de 7%
alors,
d'enfants
attendez,
de moins de 5 ans.
Combien ça coûte cette proposition ?
Effectivement, c'est 20 millions par
alors,
an.
David Béliard, est-ce que vous pouvez rejoindre
ça change des 20 milliards. Hein.
Sur cette
20 milliards pendant 30 ans, nous, c'est 20 millions
Madame
tout de suite.
Madame Dati, 20 millions.
David Béliard.
Là, encore une fois, vous êtes sur une mesure accessoire par rapport au sujet.
Dites-le aux
mais
familles, ça, que c'est accessoire.
Mais non, c'est accessoire. Oui, je vous le dis parce que, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est la régulation du marché privé, notamment. Il faut continuer à faire du logement social. Je sais que vous vous opposez assez systématiquement à la création de nouveaux logements
non,
sociaux. Vous êtes maire d'un arrondissement où vous avez moins de 3% de logements sociaux.
Non, mais je ne vais pas
pardon,
les construire sur la Tour Eiffel.
Pardon, Madame Dati, mais à un moment donné, les chiffres sont là. Mais
oui,
deuxième
bah les
chose,
chiffres sont là.
Pardon,
il n'y a jamais eu autant de logements sociaux dans le 7e que depuis que je suis maire. Mais moi, je ne fais pas du ghetto.
Est-ce que oui ou non,
Madame Dati, je fais du logement social avec de la vraie mixité.
Personne ne souhaite faire du ghetto. Personne ne souhaite
aller dans le 11e. Dites-le aux habitants du 13e.
Vous inquiétez pas, j'y vis depuis 15 ans, je le connais très bien, cet arrondissement.
Votre dernier mot, David Béliard.
Boulevard de Ménilmontant.
Oui ou non, est-ce que vous voulez, Madame Dati, vous engagez par exemple à la régulation du marché privé ? On a un sujet aujourd'hui qui est l'augmentation exponentielle des loyers. Et notamment avec le blocage des loyers.
Dernière réponse avant la fin de cette émission.
Alors moi, je vais vous dire, non mais ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir, ils découvrent que les loyers, c'est cher à Paris.
Mais
Madame Dati, vous découvrez ça, moi je ne comprends pas.
Mais non, voyons. Répondez à la question.
Je viens de vous faire la mesure
alors,
et la proposition.
Blocage des loyers, oui ou non ?
L'encadrement des loyers, ça peut être expérimenté. Encadrement des loyers, ça peut être expérimenté dans quelques zones sous tension. Mais ça n'est pas une politique,
et
l'encadrement
Paris,
des
Paris
loyers.
Paris est une zone sous tension.
La politique familiale,
Paris
c'est une politique.
Paris est une zone sous tension et sa métropole
c'est,
aussi.
Voilà,
la famille, c'est une politique.
Nous avons abordé quelques-uns des sujets épineux et sensibles cette campagne. Nous ne doutons pas qu'on vous retrouvera très prochainement sur les antennes de RTL et de LCI. Merci à tous les deux. Très belle journée, très belle semaine. À la semaine prochaine.